Chapitre 11. Vous sentez-vous concerné? Pourquoi moi? La façon dont on réagit à l'insomnie en dit long sur le peu d'importance que l'on accorde au sommeil. Si vous avez mal aux dents, vous allez chez le dentiste. Si vous avez du mal à y voir, vous prenez rendez-vous chez l'opticien. Si vous avez un mal de dos persistant ou une douleur suspecte, vous allez chez le médecin. Pourtant, lorsque nous souffrons d'insomnie, nous nous en accommodons. Nous l'acceptons comme une circonstance normale de la vie. Eh bien, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Souffrir d'insomnie n'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas non plus inévitable. Si vous vous sentez constamment fatigué, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Et cela dépasse les désagréments normaux du quotidien. C'est même un trouble plus grave que le mal de dents, la myopie ou le mal de dos. Nous l'avons examiné dans les chapitres précédents. Pour mille raisons, nous sommes réticents à nous lancer dans un changement de vie qui nous aiderait pourtant à dormir, car nous pensons que cela supposerait de renoncer aux choses que nous apprécions dans la vie. Comme vous devriez maintenant le comprendre, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas uniquement pour ça que nous ne réagissons pas aux insomnies comme nous le faisons pour les autres maladies. Nous considérons les maux, douleurs et autres affections quotidiennes comme des choses que nous attrapons d'une manière ou d'une autre qui viennent de l'extérieur. Mais nous avons tendance à penser que l'insomnie est un problème intime, qu'elle est de notre faute. Pourquoi moi? Parce que je suis fait comme ça. Le même raisonnement s'applique à la consommation d'aliments nocifs, de boissons, de drogues et aux choix de vie qui perturbent le sommeil. Pourquoi je n'arrive pas à arrêter de fumer? Parce que je suis de nature dépendante. C'est ma personnalité. Pourquoi je ne peux pas arrêter l'alcool? Parce que je suis de nature dépendante. C'est ma personnalité. Pourquoi ne puis-je pas résister au chocolat et au gâteau? Parce que j'ai un naturel addictif. Nous arborons cette étiquette avec une étrange fierté, comme si cela nous rendait plus intéressants. Mettons deux choses au clair. 1. Être dépendant n'est pas intéressant. C'est le contraire d'intéressant. 2. Il n'existe pas de nature addictive. Il n'y a que la dépendance. Pour guérir vos troubles de sommeil, vous devez vous sortir de la tête qu'il y aurait quelque chose dans votre personnalité ou votre constitution génétique qui vous condamnerait à mener un style de vie néfaste, à consommer des aliments qui perturbent le sommeil et à souffrir d'insomnie. L'excuse scientifique. Les scientifiques n'aident pas. Ils semblent toujours chercher la preuve que nos comportements nous échappent. Il a été prouvé de manière irréfutable que les événements qui surviennent dans nos premières années de vie ont une forte influence sur la façon dont nous nous comportons à l'âge adulte. Mais il reste déterminé à trouver une cause génétique à tout, de notre propension à être heureux jusqu'au penchant meurtrier. Il n'y a pas besoin d'être scientifique pour savoir que la nature et l'éducation jouent un rôle important dans l'adulte que l'on devient et dans tous nos comportements. C'est tout à fait clair. Il est également prouvé que nos penchants peuvent être modifiés à tout moment de la vie. En bref, votre personnalité n'a pas été fixée à la naissance et encore moins avant. La théorie selon laquelle il existerait une nature addictive est une aubaine pour les toxicomanes désespérés. Ils refusent d'imaginer qu'il puisse exister un remède facile à leurs maux. Les excuses que nous nous trouvons pour continuer à boire, fumer ou manger des cochonneries sont faibles et au fond, nous le savons. Quand on s'entend les dire à voix haute, on se sent pathétique. Mais l'excuse que nous offre notre soi-disant nature addictive est bien plus puissante. Elle est fondée sur la science. Nous pouvons le dire avec le plus grand sérieux et y croire vraiment. Le raisonnement est le suivant. Certaines personnes auraient un défaut dans leur constitution génétique qui les rendrait plus susceptibles que d'autres de devenir dépendantes. Ainsi, malgré tous leurs efforts, elles sont vouées à sombrer dans l'addiction et à y rester. Imaginons un instant qu'il existe réellement des personnes nées avec une telle personnalité. Que se passerait-il si dès la naissance, elle restait sur une île dépourvue de toute drogue et de toute activité addictive? Se comporterait-elle comme des toxicomanes? Bien sûr que non. On ne peut pas devenir dépendant avant d'avoir pris ou fait quelque chose qui rend dépendant. Cette théorie donne aux tabagiques une excuse pour ne pas même essayer d'arrêter de fumer. C'est une réponse parfaite à leur peur du succès. Plus ils invoquent cette excuse, plus ils s'enfoncent dans le piège. Croire en cette théorie ne résout pas votre problème, cela ne fait que l'aggraver. Mais avez-vous vraiment envie de croire que vous êtes né avec une prédisposition à l'autodestruction? Est-ce que vous y croyez déjà avant d'avoir fait ces choix de vie? Avant de vous être lancé dans des consommations néfastes pour votre sommeil? Ou vous êtes-vous mis à y croire après? Le simple fait que vous soyez en train d'écouter ce livre audio prouve qu'au fond, vous pensez pouvoir guérir. N'est-ce pas le signe que vous n'êtes prisonnier d'aucune nature addictive? Quelques soi-disant experts ont utilisé ce concept si souvent qu'on finit par croire que c'est une vérité établie. Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une théorie, rien de plus. Elle se fonde largement sur le cas des personnes qui souffrent de dépendances multiples, des buveurs qui sont généralement fumeurs ou joueurs, par exemple, ou des héroïnomanes qui fument et sont lourdement endettés. Fumer, boire, jouer, trop manger, s'endetter, toutes ces addictions semblent coïncider chez beaucoup de gens, n'est-ce pas ? Nous avons prouvé dans le chapitre précédent que ce n'était pas le signe d'un manque de volonté. Serait-ce alors parce qu'ils sont plus enclins à la dépendance que la moyenne ? Voilà la théorie. Mais regardons les faits. Une approche courante pour arrêter de fumer, largement recommandée par le corps médical, consiste à remplacer une dépendance par une autre. L'idée est que cela aide à surmonter l'envie de fumer suffisamment longtemps pour que le désir de la drogue d'origine disparaisse. En réalité, cela ne fait que transformer une dépendance en deux ou trois ou quatre. Les soi-disant experts encouragent activement les gens à devenir des toxicomanes multiples. Que les choses soient claires. Toutes les dépendances sont le fruit d'un même processus, mais cela n'a rien à voir avec votre personnalité ou vos gènes. Tout le monde peut éviter de tomber dans l'addiction et tout le monde peut aussi s'en libérer. Grand monstre ou personnalité ? La toxicomanie est une maladie solitaire, bien qu'elle touche des millions de personnes. Les toxicomanes deviennent très isolés et se persuadent qu'ils souffrent d'un problème qui leur est propre. C'est pourquoi il est si bénéfique de parler à d'autres toxicomanes. Vous vous rendez compte qu'ils vivent ou ont vécu exactement la même chose que vous, et vous verrez alors que la dépendance n'est pas une faiblesse qui vous caractériserait, vous, en tant qu'individu, mais une faiblesse de la société. Elle lave le cerveau des personnes comme vous et les enferme dans ce piège. Plus vous échouez dans vos tentatives d'arrêt, plus vous êtes persuadé que vous n'avez pas assez de volonté pour y parvenir. De la même manière, au fil de vos échecs pour arrêter de fumer, vous croyez de manière de plus en plus inébranlable que vous êtes d'une nature addictive. Si vous faites tout ce que vous pouvez pour parvenir à quelque chose et que vous échouez quand même, il est naturel d'en conclure que ce n'est pas en votre pouvoir. Les fanfarons et les pleurnichards qui prétendent avoir arrêté de fumer par la méthode forte donnent encore plus de poids à cette croyance. Si des mois, voire des années après leur arrêt, ils continuent d'avoir envie de leur dose, cela ne peut pas être l'effet de la drogue dans leur système. Ce ne peut être que la conséquence de leur nature addictive. Faux. Personne n'a envie d'alcool avant de commencer à boire. Personne n'a envie d'une cigarette avant de commencer à fumer. L'envie n'a rien à voir avec la personnalité. L'envie est un grand monstre que l'on crée lorsque l'on prend de la drogue pour la première fois. Ces fanfarons et ces pleurnichards n'ont tout simplement pas réussi à le détruire malgré leur arrêt. Rappelez-vous, le petit monstre est le sentiment d'agitation légère que l'on ressent lors d'un sevrage. Le grand monstre est la croyance que notre consommation nous procure une sorte de plaisir ou de béquille. Il crée un besoin psychologique et nous fait croire que la seule façon de soulager notre agitation légère comme ce besoin serait de prendre plus de drogue. Le grand monstre n'est pas un trait de votre personnalité. Vous pouvez détruire le grand monstre. Vous ne vous en porterez que mieux. La méthode forte se concentre uniquement sur l'élimination du petit monstre. Elle ignore l'existence même du grand monstre. Notre méthode s'occupe des deux à la fois. La dépendance physique n'est pas la seule capable de réveiller le grand monstre. Toutes sortes de choses peuvent nous mettre dans un état d'agitation propice au manque. Un traumatisme, une occasion sociale, la faim, une odeur, une image. Tant que vous laissez le grand monstre vivre dans votre tête, vous vous sentirez privé et continuerez de percevoir votre drogue comme un fruit défendu. Les fanfarons et les pleurnichards viennent à bout du petit monstre en quelques jours seulement, mais ils ne tuent jamais le grand monstre. C'est pourquoi, des années après avoir arrêté de fumer, ils risquent encore de retomber dans le piège à la moindre tentation. Ce qu'on prend pour une nature addictive n'est rien d'autre que le fait de laisser le grand monstre en liberté. Le tuer est pourtant facile si vous gardez l'esprit ouvert. Quand on s'accroche à l'excuse de notre prétendue nature addictive, c'est signe que notre esprit n'est pas ouvert. On risque de se condamner à une vie d'esclavage. Remplir un vide. On nous pose souvent la question suivante. Si la dépendance n'a rien à voir avec la personnalité, pourquoi certaines personnes tombent-elles plus profondément dans le piège que d'autres ? Pourquoi certaines personnes peuvent-elles boire un verre de temps en temps alors que d'autres descendent la bouteille entière puis en ouvrent immédiatement une autre ? Cela ne suggère-t-il pas que certains ont une personnalité plus encline à la dépendance que d'autres? C'est le signe d'une différence entre eux, oui. Mais cette différence réside dans leur expérience de vie, plus que dans leur code génétique. Nous sommes conditionnés par toutes sortes d'influences. Les conseils que nous avons reçus de nos parents, la pression de nos pères, notre éducation, notre niveau de revenu, les opportunités que nous rencontrons. À la naissance, un sentiment de béance se creuse en chacun de nous. Nous passons notre vie à essayer de combler cette insécurité. Nous nous tournons d'abord vers notre mère, puis vers notre famille élargie, enfin vers nos amis, les personnes que l'on se choisit pour modèle, nos amants, nos enfants, nos ambitions, nos loisirs, etc. Avec nos équipes, nous avons appelé cela le vide. Du fait de leur éducation, de l'environnement dans lequel ils ont grandi et de tout un ensemble de facteurs, ce vide est plus grand pour certains. Cela les rend plus susceptibles d'être attirés par des choix de vie néfastes. Mais inversement, les limites matérielles auxquelles nous sommes confrontés ont un impact sur nos comportements. Le manque d'argent et de temps, par exemple, limite la quantité d'alcool que nous pouvons boire, de cigarettes que nous pouvons fumer ou de nourriture que nous pouvons manger. Si toutes ces restrictions étaient supprimées, nous aurions tous tendance à consommer plus, car c'est ainsi que fonctionne la dépendance. Regardez les gens qui tombent profondément dans le piège. Ce sont ceux qui sont le plus souvent confrontés à l'objet de leur dépendance, ceux qui ont le plus d'argent pour se le procurer, ou ceux dont le désir est le plus fort du fait des conditions dans lesquelles ils ont grandi. Considérez-les comme des cas désespérés si vous voulez. Nos équipes ont vu d'innombrables cas désespérés se libérer de ce piège. Il leur a suffi d'inverser leur conditionnement, de démêler le lavage de cerveau dont ils étaient victimes et de réaliser que leur petite béquille était en réalité leur plus grand ennemi. Vous avez peut-être aussi remarqué que les personnes qui ne tombent pas du tout dans le piège de la dépendance, ces chanceux qui sont capables de dire non avec le sourire, semblent être une race différente. Ils vous mettent légèrement mal à l'aise, n'est-ce pas? Vous vous sentez beaucoup plus à votre place avec les toxicomanes comme vous et vous avez l'impression de partager beaucoup de choses avec eux. Vous pourriez en déduire qu'il existe des traits de personnalité communs aux personnes dépendantes. Mais quels seraient ces traits? Un tempérament instable, qui oscille entre l'exubérance et la tristesse? Une tendance à l'excès? Une grande sensibilité au stress? Une soif d'évasion? Une anxiété constante? Un sentiment d'insécurité? Toutes ces caractéristiques sont la conséquence de votre dépendance, mais pas l'inverse. Les personnes dépendantes se sentent plus à l'aise en compagnie de personnes comme elles, pour une raison simple. Elles ne les mettront pas face à leur dépendance. Elles sont dans le même bateau. Tous les toxicomanes sont conscients que leur comportement est autodestructeur. Mais quand on est entouré de personnes qui partagent ces comportements, on se sent un peu moins bête. Quand on se libère d'une addiction, il y a un bénéfice inattendu. On se libère également de l'influence qu'elle exerce sur notre caractère. On peut alors apprécier la compagnie de toutes sortes de personnes, qu'elles soient dépendantes ou non. On constate alors en général que les personnes qui ne souffrent pas de dépendance sont plus intéressantes que les autres sur la durée. Il faut bien comprendre que vous n'êtes pas devenu accro à votre mode de vie ni aux produits que vous consommez parce que vous êtes d'une nature addictive. C'est votre dépendance qui vous a mis cette idée dans la tête. Elle vous joue ce mauvais tour. Elle vous fait croire qu'il y a une faille dans votre caractère ou votre patrimoine génétique. Elle déforme vos perceptions pour mieux vous maintenir sous emprise. Parole aux chiffres. Imaginons qu'il existe un gène qui prédispose à l'addiction. La logique voudrait que ce gène ait la même prévalence dans la population mondiale et des concentrations géographiques comparables au fil de l'histoire. Or, ce n'est pas le cas. Les statistiques sur la consommation de tabac, par exemple, sont très parlantes. Dans les années 1940, plus de 80% des hommes britanniques de plus de 18 ans étaient accros à la nicotine. Aujourd'hui, le chiffre est tombé à moins de 25%. Cette tendance se vérifie dans la plupart des pays occidentaux. Faut-il en conclure que la proportion de personnes porteuses de ce gène a chuté de plus de 55% en seulement 75 ans? Sur la même période, le nombre de fumeurs a explosé en Asie. Une caractéristique génétique peut-elle connaître des écarts si massifs et si brutaux en quelques décennies? Peut-elle sauter d'un continent à l'autre de la sorte? Les statistiques ridiculisent cette théorie.